Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Que l'on est heureux quand on vit dans l'intimité avec le bon Dieu, quand on fait de sa vie un cœur à cœur, un échange d'amour, quand on sait trouver le maître au fond de son âme. C'est une des phrases de Sainte Élisabeth de la Trinité que nous avons découvert avec vous, frère Luc. Marie Perrier, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est tout un programme, c'est toute une vie spirituelle, c'est tout un enseignement, cette vie d'Élisabeth en conformité avec le Christ.
Elle est riche.
Elle est riche, c'est une habitation de cette présence sans limite de Dieu.
Oui, c'est Élisabeth, comme vous venez de le dire et de le citer ici, c'est une expérience de la présence de Dieu au-dedans, dans le silence et la paix, par un regard de foi simple posé sur Dieu.
Et la paix
qui est une conséquence de ce simple regard posé sur celui qui est tout. Quand je dis tout, c'est à la fois tout puissant et tout amour. Hein, comment Dieu a la puissance de sa bonté et comment la puissance de Dieu, elle est toute ordonnée à sa bonté, hein, c'est-à-dire au bien de sa créature. Donc Élisabeth, vous voyez, c'est vraiment la sainte de l'inhabitation, on reviendra toujours là-dessus, hein, c'est le centre de gravité. Et elle a une belle expression de cela quand on lui amène au parloir de son Carmel sa petite nièce qui est encore tout bébé. Et pleine d'admiration devant sa petite nièce, Élisabeth dit « Je me sens toute pénétrée de respect en face de ce petit temple de la Sainte Trinité. Son âme m'apparaît comme un cristal qui rayonne le bon Dieu. Et si j'étais près d'elle, je me mettrais à genoux pour adorer celui qui demeure en elle. » Vous voyez que nous avons pris conscience de la sacralité de tout être humain depuis que le Verbe s'est incarné, qu'il a épousé notre condition humaine et qu'il s'est intériorisé en sa divinité à tout homme à naître dans ce monde qui devient, comme le dit Élisabeth, un tabernacle, qui devient le lieu d'une résidence divine, qui devient maison de Dieu. Alors, moi, ce qui m'a semblé important dans ce livre, dans cet ouvrage, c'est de ne pas en rester simplement, si vous voulez, à ce sentiment de la présence de Dieu, à cette spiritualité de la présence de Dieu au-dedans de l'âme, avec toutes les formulations poétiques qu'utilise Élisabeth, parce qu'elle est aussi une théologienne.
Élisabeth, théologienne, c'est-à-dire ?
Certains passages d'Élisabeth... certains petits traités spirituels d'Élisabeth sont d'une très très grande densité théologique.
Vous en donnez des exemples.
Oui, elle cite beaucoup saint Paul. Ouais. Elle est vraiment, comment dirais-je, chevillée à la théologie de saint Paul. Vous voyez, donc
c'est un peu sa grande référence, l'apôtre Paul, hein, dans les écrits. Hein,
absolument. Et Élisabeth, puis elle cherche raison de tout ce que lui dit la foi. Et donc je me suis dit, on ne peut pas aborder ce grand problème de l'inhabitation divine chez Élisabeth sans rendre raison de ce mystère de l'inhabitation. Comment pouvons-nous dire que nous sommes habités de Dieu? Qu'est-ce qui nous permet de dire que nous sommes habités de Dieu? Et ne pas éluder, vous voyez, cette question. Et qui, je pense, peut être traitée de manière assez simple. Ça a été vraiment l'enjeu de ce chapitre 5. Et donc je me suis appuyé, évidemment, sur la théologie de la connaissance et la théologie de l'amour, pour bien aider le lecteur à prendre conscience comment nous pouvons être habités de Dieu. Bon, si vous voulez, on peut s'adonner à ce petit exercice
très rapidement. Très vite, hein, dans les 5 dernières minutes.
Très rapidement. Voyez, quand vous connaissez par la vue, exemple, un oiseau vert qui se tient sur une branche. Quand vous voyez cet oiseau vert avec votre faculté de vision, votre faculté de vision a la puissance et la capacité d'être revêtue de toutes les déterminations sensibles visuelles de cet oiseau vert sur la branche. En sorte que il faut bien faire la distinction entre l'oiseau vert qui se tient sur la branche et l'oiseau vert dans ma faculté de vision en tant qu'il est vu, tel qu'il est. Et donc quand je vois par ma faculté de vision un oiseau vert, je l'ai au-dedans de moi. Je l'intériorise en ma faculté de vision. Alors cela, dans la faculté de vision pour les réalités sensibles et visuelles, mais aussi dans la faculté d'intelligence intellective, quand elle comprend les choses, qu'elle voit, comme on dit d'ailleurs, quand je comprends quelque chose, je dis « ah oui, je vois ». Expliquez-moi ceci, expliquez-moi cela. Et une fois que je vous l'ai expliqué, vous dites « ah oui, je vois ». Je vois pas de vision oculaire, je vois de vision intellectuelle. Et donc, comme nous intériorisons par la connaissance ce que nous voyons de nos yeux visuels, nous intériorisons par la connaissance ce que nous voyons de connaissance intellectuelle. Donc, la connaissance est véritablement une capacité d'intériorisation de ce que nous connaissons et de ce que nous voyons. Donc, quand nous verrons Dieu, nous le verrons et il sera tel qu'il est par notre faculté de connaissance, au-dedans de nous. C'est ce que dit le disciple Jean, le disciple bien-aimé. Nous lui deviendrons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est-à-dire nous serons vraiment revêtus de toutes les déterminations divines, de toutes les réalités divines, par l'acte de connaissance de Dieu, par la vision. Élisabeth de la Trinité donc, nous a montré comment nous pouvions... par la foi, être vraiment inhabité de Dieu, parce que la foi est un acte de connaissance lumineux, surnaturel, de cette réalité de Dieu environnante et qui imprègne l'univers et qui imprègne toute notre vie. Et l'amour aussi est une intériorisation. Parce que quand j'aime, j'épouse la volonté de l'autre, je la fais mienne. Et par l'amour, je deviens tout ce que l'autre veut, tout ce que l'autre désire, et je l'ai en moi. Et l'amour me fait porter l'autre. L'amour grave l'autre au plus profond de mon cœur, et je dirais que c'est peut-être encore plus fort même que la connaissance. L'amour est une capacité vraiment d'intériorisation de l'autre. Et quand vous aimez vraiment quelqu'un, vous n'avez plus besoin, je dirais, d'être forcément à côté de lui, vous n'avez plus forcément besoin de l'avoir physiquement là avec vous, partout où vous vous déplacez dans le monde, géographiquement, et avec le temps qui s'écoule, quand vous aimez, vous gardez la présence de la personne au-dedans de vous. Alors, j'ai connu, il y a 30 ans, des sœurs en Colombie, de la Visitation Sainte-Marie, qui ont été, je dirais, des bonnes sœurs, comme on dit, alors au sens vraiment propre du terme, c'est-à-dire des sœurs qui ont par leur amour, leur communion, leur présence, leur prière, ont été vraiment, pour moi, je dirais, vraiment des mères spirituelles. Et j'ai eu le désir de les revoir 30 ans après. Et au novembre, j'ai eu l'opportunité de faire un voyage en Colombie qui m'a permis de revoir mes sœurs bien-aimées que je n'avais pas vues depuis 30 ans. Eh bien, quand nous nous sommes retrouvés dans le parloir, c'est comme si nous ne nous étions jamais quittés et c'est comme si nous nous étions vus hier. Élisabeth, la Trinité, elle a son Dieu en elle, au-dedans d'elle, par la connaissance et l'amour, et elle peut le rencontrer à toute heure. Quand nous aimons, nous pouvons vraiment être présents à ceux que nous aimons, même s'ils nous ont quittés dans ce bas monde. Hein, et on voit bien comment les gens qui portent la foi chevillée au corps, petit à petit, acquièrent cet habitus de connaissance et de proximité de leurs défunts, dont ils deviennent capables de vivre en proximité, peut-être parfois même mieux et encore plus profond que s'ils les avaient gardés ici-bas.
Dites-moi, dans ces deux dernières minutes, on entend bien aussi, en revenant sur cette Élisabeth de la Trinité, qu'elle a été pleinement aimante et du coup, de ce regard fixé vers cet amour du Christ, elle a été conforme, elle est devenue conforme dans cette fin de vie, au cœur des épreuves les plus terribles et de la destruction même de son corps, à l'image de son bien-aimé. Jésus crucifié,
oui,
c'est l'amour qui la transfigure.
L'amour, par le regard, l'a totalement identifié et inhabité de l'intérieur à Jésus crucifié par amour, qu'on peut dire, elle est véritablement devenue comme une image vivante. Et c'était d'ailleurs l'objet de sa prière, puisqu'elle demandait à l'Esprit-Saint que se réalise en elle comme une incarnation du Verbe. Est-ce que c'est pas cela notre vocation chrétienne, de devenir, par notre conformation à Jésus crucifié par amour, une vivante image du Dieu fait chair? Jésus ne veut pas apparaître dans le monde, dans des apparitions extraordinaires. Il veut apparaître par une transformation du chrétien qui lui devient absolument semblable. Et j'espère qu'avec Elisabeth, je deviendrai, comme vous, une vivante image de Jésus et une apparition du Verbe incarné, crucifié par amour pour le monde. Elisabeth l'a été pour nous, que nous puissions l'être à sa suite. C'est le vœu que je formule au terme de ces émissions que nous avons partagées ensemble.
Et puis, merci à vous.
Qu'il se fasse en moi comme une incarnation du Verbe.
Et au fond, pas besoin de beaucoup voyager parfois, on n'a pas besoin de partir en Colombie, mais on vous souhaite peut-être de belles rencontres et un bon voyage aussi en Colombie. Mais on peut être missionnaire effectivement au cœur du monde, mais ce grand voyage au fond, et Elisabeth nous le montre, nous le redit toute la semaine, c'est au-dedans. Oui, et des dernières minutes.
Le Carmel, c'est le vrai voyage. Et l'oraison, c'est le vrai voyage. Et si nous voulons aller à l'autre bout du monde, de l'autre côté du monde, dans la véritable aventure, c'est dans la prière et l'oraison que nous allons le réaliser.
Et au fond, ce sont ces bonnes clés là que vous nous donnez avec Elisabeth pour bien terminer cette série. Donc nous prenons ces clés aussi pour oser se risquer dans ce beau et grand voyage. Merci frère Luc Marie Perrier. Au revoir et à bientôt. Thank you.